La Société d'Alzheimer de Granby présente une programmation stimulante et innovante pour ses membres et ça me fait plaisir d'en parler avec la directrice générale de la Société d'Alzheimer de Granby. Il s'agit de Sophie Foisy. Bonjour, Madame Foisy.
Bonjour, Madame Denis.
Merci beaucoup d'être avec nous. Madame Foisy, d'abord, quelle est la mission de votre organisme?
Bon, la mission de la Société d'Alzheimer et de toutes les sociétés au Québec, c'est d'avoir à amoindrir les impacts de la maladie auprès de la personne atteinte principalement, mais aussi auprès de ses proches. Alors, évidemment, on va user là, de différents services pour pouvoir répondre à cette mission-là. Puis, évidemment, ben de faire en sorte de ramener nos expériences également terrain pour faire l'avancée là, de la progression de la recherche également.
Est-ce que vous desservez tout le territoire? Ben là, on parle de Granby, mais est-ce que ça va plus loin?
Oui, nous, on a deux MRC là, qu'on couvre principalement, donc la MRC de la Haute-Yamaska ainsi que de Promiscouas. Donc, nous sommes 20 au Québec qui offrons des services. Nous, on est une petite société régionale parce que la Montérégie était anciennement séparée en 5. Mm-hmm. Alors, c'est pourquoi nous, on a cette portion-là de ce territoire-là.
D'accord. Et vous disiez que vous offrez des services aux personnes vivant avec la maladie et aussi aux proches aidants.
Oui, tout à fait. Donc, pour les personnes atteintes, on offre des cafés rencontres qui leur permettent de pouvoir socialiser, avoir de l'information. Des fois, c'est plus facile d'en parler avec des pairs que d'en parler avec des proches. On offre aussi du soutien psychosocial pour ces personnes-là. Puis, on a le volet aussi psychosocial pour les proches aidants, donc cafés rencontres également, suivi individuel. Puis, on offre le répit à domicile maintenant avec la pandémie. Et de mini-groupes là, pour permettre la stimulation là, des personnes atteintes et en même temps de permettre du répit aux proches aidants. Donc ça, c'est une offre là, qui est gagnante pour les deux parce qu'ils viennent socialiser, ils viennent avoir du plaisir. Nous, on est vraiment là pour leur offrir des moments plaisants donc pendant le moment qu'ils sont avec nous. Donc ça leur sort de leur quotidien puis on travaille à ce qu'ils soient toujours très confortable et qu'il n'y ait pas de confrontation là, dans des éléments de leur maladie, par exemple.
Vous avez évoqué la pandémie. Est-ce que la COVID-19 affecte toujours votre offre de services?
On l'a modulé dès les premiers temps de la pandémie parce que nous, on faisait des répits de groupe. Donc, on avait 9 groupes sur nos territoires à tous les semaines avec un ratio d'à peu près entre 8 et 10 personnes de chaque groupe. Donc, on a dû cesser. On a fait des capsules vidéo pour aider les familles justement à continuer cette acuité-là, à la stimulation auprès des personnes atteintes. Puis, en août 2020, on a parti le service à domicile. Donc là, on a une formule hybride qu'on poursuit parce que on est très conscient que la pandémie n'est pas terminée et que ça répond également à un besoin d'avoir des groupes plus petits que 10. Ça nous permet d'avoir une proximité, plus choisir les gens. C'est sûr qu'on ne peut pas desservir autant de personnes qu'on avait l'habitude. Par contre, on fait du répit virtuel pour des gens qu'on ne peut pas accueillir dans nos locaux, des appels d'amitié aussi. Fait qu'on a modulé pour que ces gens-là ne se sentent pas mis de côté, qu'ils aient leur moment à eux. Puis pendant les répits téléphoniques, des fois, les animateurs peuvent passer des fois une heure et demie à faire des jeux au téléphone, chanter des chansons. Donc, c'est vraiment pas comme si on était avec eux, mais c'est tout comme.
Vous n'oubliez personne. Il y a combien de membres dans l'organisation?
On a 300 membres environ. Ça module. Ça dépend toujours des années. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont bénéficiaires. Il y en a d'autres qui sont en support. Mais présentement, là, on a 65 familles là, qu'on desservait en fait pour le répit à domicile. Et maintenant, on est rendu à 27 familles. Par contre, on va chercher presque 300 proches aidants qu'on offre quotidiennement à tous les mois en fait du soutien.
Et depuis quelques mois, Sophie Foisy, vous proposez une activité de musicothérapie, le projet Music and Memory Marguerite Dunn. Mm-hmm. Ça consiste en quoi, ce projet?
Bien, ce projet, en fait, c'est qu'on l'a remis sur la scénette parce qu'il existe depuis 2016 chez nous. C'est un proche aidant et un avocat de la région de Granby, M. Girard, dont la mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui a fait un don généreux de 30 000 $.
La mère, donc, qui s'appelle Marguerite Dunn?
Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est pourquoi le programme porte son nom ici à Granby. Music and Memories, à la base, c'est vraiment un programme de musicothérapie où est-ce que les familles viennent nous voir et font une playlist, donc une liste de chansons. Mm-hmm. qui touche la personne. Donc, c'est 30 chansons qu'ils choisissent parmi tout le répertoire. Des fois, on va chercher des chansons quand on les a pas, pour soit leur rappeler des bons souvenirs, soit parce que c'est la période des fêtes, soit parce que on a besoin d'une zone de calme pour des soins, par exemple, plus intimes. Donc, c'est vraiment très personnalisé, puis on peut la changer au courant de l'année. Là. La famille peut revenir et dire, bon, ben parfait, là, on a retrouvé un peu nos moments, mais là, on sent un désintéressement. Qu'est-ce qu'on peut changer dans la liste de chansons. Donc, c'est un service. On sait que ça fait appel à la mémoire émotive, mm-hmm. Qui est la dernière qui nous quitte là, dès qu'on décède. Donc,
c'est une mémoire qui reste jusqu'à la fin de nos jours, même quand on a la maladie d'Alzheimer?
Oui. Oui, c'est la mémoire affective, donc c'est pour ça que les touchés, la musique, les odeurs vont venir les interpeller même quand ils sont très avancés dans la maladie.
Est-ce qu'ils sont capables de chanter certaines chansons qu'ils sont en train d'écouter?
C'est très surprenant. Effectivement, il y en a qui ne parlent presque plus parce que ça fait partie de la maladie là, d'avoir de l'aphasie. Et on retrouve, les gens chantent naturellement tout d'un coup. Des fois, il y en a qui dansent, il y en a qui tapent du pied, il y en a d'autres qui vont se mettre à danser s'ils dansaient sur cette chanson-là. Puis on a un exemple, il y avait une dame qui était dans les tout débuts. Son mari, lui, c'était pas la maladie d'Alzheimer, mais c'était un Parkinson qui avait des atteintes cognitives. Puis dès qu'elle mettait la musique, là, il se levait puis il dansait, puis sinon il se déplaçait avec une marchette. Donc c'est pour dire le pouvoir là, que ça a chez les gens.
Ça crée des moments joyeux, de bonheur. Pour eux et pour leur entourage.
Tout à fait, c'est ça qui est important. Puis ça nous crée, nous, quand les proches aidants, des souvenirs positifs de cette étape-là qui est quand même difficile.
Oui.
On reconnecte avec la personne atteinte. Donc, l'élément sensoriel est très important. Puis la musique, c'est universel parce qu'on est baigné dans un environnement musical à des moments dans notre vie, les premières expériences, notre mariage, un premier voyage. Donc, ça vient faire chercher de la mémoire à long terme. Donc, c'est très ancré dans la personne. Mm-hmm. Donc, ça fait du sens pour elle.
Alors, qui peut participer à l'activité? Ce sont toutes les personnes qui sont justement malades, qui ont l'Alzheimer?
Oui, nous, on accueille aussi des gens qui ont des troubles neurocognitifs. Donc, comme le monsieur que je vous parlais tout à l'heure,
ouais.
qui avait un Parkinson avec une atteinte cognitive, ou des gens avec l'accord de Lewy, par exemple. Donc, toute la dégénérescence qui est liée à une dégénérescence du cerveau, on peut travailler avec la musique. Donc, les proches aidants nous appellent tout simplement, puis on fait un rendez-vous. C'est pour ça qu'on a eu un bel article. Là. C'est Cédric Prudhomme, qui est notre stagiaire de cet été, en éducation spécialisée au Cégep de Granby, qui est notre nouveau responsable de ce dossier-là. Donc, il reste avec nous pour pouvoir assister là, les familles à créer leur liste de chansons.
De chansons. Est-ce qu'il y a une chanson qui revient plus qu'une autre?
Ah, c'est difficile parce que les chansons traditionnelles sont très populaires. Par contre, on a de plus en plus de gens qui arrivent dans la soixantaine, donc qui ont un univers musical qui ne sont pas la même chose que les gens dans les années 80, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant de voir. Et on a des gens issus des communautés culturelles aussi.
Ah,
on a été chercher des chansons espagnoles, par exemple, pour une famille, parce que la personne, elle est de langue espagnole. Donc, on va chercher autant francophone, anglophone. Donc, c'est vraiment varié. Je pourrais pas vous dire parce que je ne voudrais pas me tromper sur la plus populaire.
On comprend bien là, que c'est varié justement parce que les personnes n'ont pas nécessairement le même vécu, le même âge, ne proviennent pas du même milieu. Et c'est une très belle activité. J'espère qu'il y a plusieurs organismes qui le font, pas nécessairement ce projet intitulé Music and Memories Marguerite Donne, mais dans ce sens-là, je pense qu'on l'entend depuis quand même quelques temps là, que la musique a un effet bénéfique chez les gens qui ont des problèmes cognitifs.
Tout à fait. On a vu avec la pandémie justement que c'était un moyen de calmer les gens, où on a vu des vidéos passer sur les réseaux sociaux de, par exemple, une ballerine du Grand Ballet canadien qui a une atteinte cognitive qui se remet à danser sous la musique.
Oui, ah oui, c'était vraiment émouvant de voir ça.
Effectivement. Donc oui, c'est comme tout art, les gens, même avec un niveau avancé, ben vont pouvoir en bénéficier. C'est pas comme faire de l'art thérapie où est-ce que là, il faut être en action. Là, c'est vraiment plus passif, mais ça a vraiment des impacts. Puis nous, chez nous, à tous les jours, les gens, quand ils sont en répit, ils vont chanter une petite chanson. Donc, ça fait partie de notre façon de les aborder aussi. Donc, puis c'est souvent ce qu'on leur propose quand c'est difficile à la résidence, parfois, pour avoir des soins ou à domicile, ben c'est un des outils qu'on leur propose aux familles.
Et vous avez aussi un nouveau projet axé sur l'activité avec une machine appelée Kinésic. Mm-hmm. Qu'est-ce que cette machine-là et comment ça fonctionne?
Bien, la machine, en fait, c'est la sclérose en plaques Richelieu Yamaska qui l'a acquis pendant la pandémie. L'objectif, c'est vraiment de faire, c'est un équipement qui fait faire des exercices de force motorisée destinés à augmenter l'autonomie fonctionnelle des personnes plus fragiles. Donc, par exemple, ils ont commencé avec les gens de la sclérose en plaques. Puis là, nous, on a commencé le projet avec le complexe médico-sportif Évolution. Donc, la machine peut stimuler, par exemple, qu'on marche sur la plage, donc nos pieds qui enfoncent dans le sable, donc on recrée le tout. Le but, c'est de travailler l'équilibre. Il y a un écran, donc il y a des aspects cognitifs. On peut se promener à Vienne. Si la personne, elle aimait marcher dans les bois, ben on peut marcher dans la forêt. On peut faire du Zumba pour ceux qui sont plus actifs. Et on peut faire des jeux cognitifs en même temps qu'on marche. L'objectif, c'est de faire en sorte de garder les fonctions de base qui est la marche, en fait, puis travailler sur l'équilibre parce qu'on sait qu'avec la maladie, malheureusement, ces éléments-là vont devenir de plus en plus difficiles. C'est issu de notre collecte de fonds du défi 35 jours pour bouger dans le cadre de la marche IG gestion de patrimoine. Cette année, on s'est doté le mandat de faire bouger le plus possible nos gens parce que c'est comme ça qu'on permet de ralentir la maladie. Puis, on fait en sorte que la personne atteinte, elle ne vient pas seule, elle vient avec son proche et elle aussi, elle a son programme à elle personnalisé. Donc, ça lui permet à elle aussi de s'entraîner. Souvent, on est blessé quand on vient pour déplacer une personne, on s'y prend mal, donc on se blesse au dos, on arrête de faire notre activité physique parce que ça demande plus de surveillance avec la personne. Donc, ça nous permet de leur offrir à ces deux personnes-là dans la famille un moment d'activité physique encadré par des kinésiologues, donc des professionnels. Alors là, on est en projet pilote. On a deux Diane, donc aidants aidés, là, qui sont nos ambassadeurs. Puis on devrait partir dans les prochaines semaines, là, les prochains proches aidants qui vont vouloir participer au projet.
Un autre super beau projet. Bien, Sophie Foisy, directrice générale de la Société de l'Alzheimer de Granby, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation.
Bonne journée.
Bonne journée.